Algocratie. Je sens qu'on se dirige vers un truc entre guillemets cyberpunk à la Blade Runner. Un jour, on va avoir des hologrammes dans la rue qui vont popper et qui vont dire « Hey, machin, tu cherches ça ?» Tu vois, tiens, genre « Waouh !»
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro flambant neuf de Zoom Zoom Zen, une heure pour mieux cerner notre époque autour d'un mot, d'un concept qu'on décortique ensemble, dans la joie et la bonne humeur, ça c'est nous, mais avec rigueur et précision, ça c'est nos invités. Aujourd'hui, un mot qui fait peur à ceux qui, comme moi, ont été traumatisés par le film Matrix. Algocratie, et oui, les algorithmes étant désormais partout, on peut légitimement se poser la question, sommes-nous encore en démocratie ou glisse-t-on peu à peu vers une forme d'algocratie donc. Je me souviens de la panique dans les yeux de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, pionnier de l'informatique des disquettes molles sur Amstrad, quand je lui expliquais notre sujet du jour. Il était attablé chez Blériot, sa cantine, en face de Radio France, où on peut le trouver chaque jour entre 11h40 et 15h45. Il a posé sa fourchette, il m'a dit « Mathieu, tu veux dire que ma côte de bœuf, là, n'est pas réelle et cette béarnaise relevée au judaï non plus ?» J'ai dit « Non, Cyril, c'est un peu plus compliqué que ça, on va demander à nos invités de nous expliquer, il va falloir être courageux. Alors, tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge ?» Visiblement, il n'avait pas la ref, puisqu'il a simplement dit « Je vais plutôt reprendre un pot de brouille. » Zoom, zoom, zen, c'est parti.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Ce qui est fou dans cette émission, c'est que c'est vrai en plus. C'est vraiment très très proche de notre quotidien.
C'est pas loin de notre quotidien.
À mes côtés, eux, ils n'ont jamais connu l'époque des disquettes molles. Ils sont nés avec un smartphone dans la main. On accueille Manon Mariani et Quentin Louis. Bonjour les amis.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Manon. Oui. Manon, je me souviens de votre timidité en début de saison, quand je vous appelais encore Marion. Oui. Je venais de vous sortir du ruisseau, ruisseau nommé Move. Et maintenant, je ne peux même pas obtenir un rendez-vous avec vous, c'est normal, vous êtes l'égérie TikTok de France Inter. Quelle ascension! Et c'est mérité, Manon, vous maîtrisez les réseaux sociaux à peu près aussi bien que Cyril, la cuisson des viandes rouges. Alors, en cette fin de semaine, qu'est-ce qui monte sur les réseaux?
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau terrain de jeu des femmes influenceuses. Alors non, ce n'est pas TikTok, Mathieu, pour une fois, mais les podcasts, et oui, elles s'y mettent toutes et je vais vous expliquer pourquoi dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Manon, c'est le principe des vases communicants. Pour que certains montent, d'autres doivent descendre. Pauvre Quentin, lui. Pauvre Quentin. Hier encore, il sillonnait les routes de l'Orne sur cette Ducati Monster. Le cœur ouvert à l'inconnu, mais surtout à une augmentation. Il se disait, tiens, Manon, qui est promue et gérie TikTok, ça se trouve, ils vont me proposer de devenir le référent micro-trottoir d'Inter sur Twitch. Hélas, personne ne vous a rien proposé.
Ça viendra. Laissez-moi le temps.
Votre heure viendra, Quentin. Ne vous inquiétez pas, effectivement. En attendant, racontez-nous, les gens dans la rue, ils ont peur des algorithmes?
Peur, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, il les voit partout. Publicité ciblée, sentiment d'une perte d'esprit critique à force de tomber sur le même contenu. Et je sais ce que c'est parce que moi, c'est les vidéos de Manon Mariani que je vois tout le temps. TikTok, Insta, elle est partout.
C'est pas les pires.
C'est gentil.
Elle est partout.
Alors, on ne sait pas s'il faut avoir peur des algorithmes, mais une chose est sûre, il faut avoir peur du quiz. Vous, en tout cas, hein, le Zoom Zoom test sera aux alentours de 16h30. En toute fin d'émission, on retrouvera la gouaille légendaire de Pierre Thévenoud qui nous racontera ses rapports très particuliers avec les algorithmes. Mais d'abord, il est temps de prendre notre sujet à bras le corps et même avec quatre bras, puisque nous avons deux invités. Bonjour Aurélie Jean.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences. Waouh. Et entrepreneur. Et quand on sait que vous avez publié « Les algorithmes font-ils la loi ?», on se dit que vous êtes vraiment l'invité parfaite pour notre émission. Sauf que notre autre invité, lui, a carrément publié « Algocratie », vivre à l'heure des algorithmes. Bonjour Arthur Grimont-Pont.
Bonjour.
Merci. Alors avec vous deux, normalement, on est parti pour la gloire. Pour commencer, on va peut-être reprendre à la base. C'est quoi? C'est la question que Cyril voulait vous poser. C'est quoi un algorithme?
L'algorithme, d'où ça sort? Eh bien, de l'esprit d'un mathématicien perse appelé Al-Khwarizmi. C'est au 9e siècle, dans son ouvrage, abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, qu'il résout des équations du second degré par des algorithmes.
Comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai donc pensé, Mathieu, qu'un petit rappel d'un ancien d'où ça sort ferait parfaitement l'affaire pour ouvrir cette chronique.
Mais il se recycle,
c'est génial.
Il s'auto-recycle,
il est dans Matrix.
Un moment, là, on ne sait plus où on est, là. C'est invraisemblable.
Mais n'étant pas près de mes sous, comme d'autres autour de cette table...
Hier soir, la rédac m'a appelé pour me demander si je pouvais être là un jour férié. J'ai dit, bien sûr, combien?
On l'avait tous reconnu. Je vais donc vous faire un petit extra pour les algorithmes. Encore que quand j'y pense, avec ces deux super spécialistes autour de la table, c'est plus pour faire de la décoration, mais je ne voudrais pas que Florence Joliffe, notre directrice financière, ne vienne me taper sur les doigts. Donc j'embraye. Si l'ancien moi vous a déjà parlé de ce mathématicien perse, le moi d'aujourd'hui va vous parler de Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe, scientifique, mathématicien, mais aussi un grand algorithmicien. sien. En inventant le concept du calcul infinitésimal, ce brave Gottfried en profite pour apporter une contribution à l'algorithme mathématique grâce au calcul binaire.
Oh, c'est quand même bien fait.
Autre nom qui pèse dans le game des algorithmes, Alan Turing, encore un mathématicien considéré comme le père fondateur de l'informatique, avec sa fameuse machine de Turing, il démontre qu'une machine peut calculer diverses tâches pourvu qu'elles soient précisément définies et ordonnées. C'est à ça que servent les algorithmes. Pour le reste, Mathieu, je vous laisse voir avec Aurélie et Arthur.
Alors justement, Aurélie Jean, Arthur Grimont-Pont, avec vous, on va essayer de comprendre comment on pourrait le résumer le plus simplement du monde pour quelqu'un qui nous écoute, pour ma grand-mère par exemple, qui ne sait pas ce que c'est qu'un algorithme. En quoi on peut dire que les algorithmes sont partout aujourd'hui déjà ? Arthur, c'est sur vous que ça tombe.
Alors moi je m'intéresse en particulier à un certain type d'algorithmes qui sont selon moi ceux qui ont le plus d'impact dans notre société.
Et qui sont ?
Ce sont les algorithmes de recommandation, c'est-à-dire ces outils qui fabriquent le fil d'actualité de votre réseau social ou qui vous conseillent une vidéo sur YouTube par exemple. Donc si vous regardez YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, tous ces réseaux sociaux ont des fonctionnalités diverses, mais ils ont exactement le même modèle, c'est construire une gigantesque base d'utilisateurs et convertir leur attention en revenus publicitaires. Et
en pour fonction ça, de nos préférences personnelles.
Absolument.
C'est ça le cœur de cette émission. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Aurélie Jean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur YouTube, quand on cherche quelque chose sur Internet. Ce n'est pas de manière générale qu'on nous propose des choix. C'est des choix qui sont ciblés pour nous, chaque utilisateur.
Exactement.
Comment ça se passe ?
En fait, alors ce que disait Arthur, il parlait des algorithmes de recommandation de contenu. Il faut bien spécifier contenu, s'il y a plein de types d'algorithmes de recommandation. Et on parle ici que des réseaux sociaux et des plateformes à la demande, parce qu'il y a des algorithmes partout pour reprendre vos propos initialement, à savoir dans la médecine, dans le transport et pas mal de choses, dans la communication et autres. Donc oui, vous avez raison, en fait, ces algorithmes vont s'appuyer sur, si on s'intéresse aux réseaux sociaux et plateformes à la demande, en fait, ils vont s'appuyer sur deux types de profils qui nous concernent. Le profil que moi j'appelle statique, donc les éléments qui vont, que nous entrons quand nous enregistrons sur la plateforme et qui nous décrivent statiquement, c'est-à-dire qui on est, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on est, voilà, etc., notre âge éventuellement. Et puis vous avez le comportement, le profil dynamique, à savoir nos comportements sur la plateforme. Donc ça veut dire
qu'on fait sur Internet.
Exactement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire autant les contenus que nous allons aimer, les contenus que nous allons regarder, ceux que nous allons commenter, ceux que nous allons partager, mais également les gens qui ont tendance à nous suivre et les comptes que nous suivons. Voilà, c'est des profils dynamiques et ces algorithmes vont s'appuyer sur ces deux éléments. Ma foi, assez complexes pour aller traduire ce qu'on aimerait en théorie regarder.
Oui, Arthur, vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Oui, pour compléter, donc sur YouTube, tous les jours, il y a à peu près 120 000 ans de vidéos qui sont visionnées quotidiennement par l'humanité. Et sur ces 120 000 ans, les trois quarts sont le fruit d'une recommandation de l'algorithme de YouTube. Donc on commence à apercevoir le rôle énorme de cet algorithme pour construire et façonner notre représentation du monde, quoi.
On comprend le rôle énorme de cet algorithme, de ces algorithmes. Comment ils sont conçus ? Parce que pour les profanes, c'est complètement mystérieux. Est-ce que c'est un génie à la Turing qu'on enferme dans une salle, on lui dit « toi, tu vas nous faire un bon algorithme là-dessus », il le fait tout seul, ou c'est une collaboration de plusieurs personnes qui bossent sur un algorithme ? Comment ça se passe ? Qui veut répondre ?
Je peux répondre. Ouais. Alors bien sûr, moi, je n'ai pas mis les mains sous le capot, mais je peux vous imaginer, parce que j'ai créé des algorithmes de recommandation, pas de contenu, mais d'autres choses. C'est pour ça que c'est très vague, en fait, ce terme. Mais ça va être, par exemple, ça peut être un algorithme dit hybride. Donc, hybride, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une partie qui va être explicitée par les concepteurs, les gens qui ont décidé de le concevoir de cette manière. Je vous donne un exemple. Si vous avez en dessous de 18 ans, on ne va, en théorie, jamais vous recommander un contenu qui est interdit pour les moins de 18 ans. Donc c'est une règle explicite qui est introduite dans l'algorithme de recommandation. Puis vous avez des règles implicites, donc ce que j'appelle l'algorithme implicite, qui lui en fait va se baser, donc entre autres pour utiliser un terme un peu technique, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage machine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'algorithme, sans rentrer dans les détails mathématiques, va être entraîné sur un jeu de données qui représente les scénarios sur lesquels il va devoir répondre à une question qui est savoir quelle vidéo vous suggérez à un moment donné. Et donc, en fait, il va être entraîné. Donc, implicitement, il va s'appuyer sur votre profil statique et dynamique pour vous recommander des choses pertinentes au regard de vos comportements.
Est-ce qu'un algorithme s'améliore tout seul ? Est-ce qu'il y a du deep learning dans l'algorithme ou non ?
Alors, deep learning, c'est encore un autre terme. C'est un type d'apprentissage qui est beaucoup utilisé en je sais pas comment on dit en français, computer vision, en je sais pas comment on dit, vision computationnelle en français.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant quand même, hein, le buzzword. Mais donc, en fait, c'est pas, ils apprennent tout seuls, c'est un terme un peu galvaudé. Disons que ce qui se passe, c'est qu'ils sont entraînés sur un jeu de données qui va être annoté, structuré, donc on va orienter la manière dont l'algorithme va être entraîné, voulant dire on va lui expliciter sur quoi il va être entraîné. Cela étant dit, il va s'améliorer en théorie au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des données qui lui sont fournies. Mais encore faut-il que le jeu de données qui lui soit fourni soit représentatif, sans erreur, etc. Voilà, il y a pas mal de choses à aborder sur le sujet.
On est d'accord, les algorithmes sont étranges, mais ne sont-ils pas finalement à l'image de leur créateur ? Les Doors le disaient déjà il y a fort longtemps, « People are strange ».
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Inter.
Et si on se dirigeait tout droit en sifflotant vers l'algocratie ? Arthur Grimont-Pont, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Algocratie », sous-titre « Vivre libre à l'heure des algorithmes ». Mais est-ce que c'est seulement possible de se libérer des algorithmes ? Et puis, à quoi va ressembler cette liberté à l'ombre de ces algorithmes mystérieux ?
Alors, pourquoi ce serait problématique en fait de laisser un algorithme choisir ce qui retient notre attention, notamment sur les réseaux sociaux ? C'est parce que, premièrement, ce qui retient notre attention n'a rien à voir avec notre intention profonde. Si vous conduisez sur l'autoroute et que vous passez à côté d'un accident, votre regard va être presque irrésistiblement attiré par cet accident. Et de cela, l'algorithme de Facebook déduirait que vous adorez regarder des accidents et va vous proposer de plus en plus d'accidents à regarder. En fait, si vous croyez jouir ou bénéficier d'une quelconque liberté d'opinion ou d'information sur un réseau social, c'est un peu comme si vous usiez de votre liberté d'aller et venir, mais circonscrite à un centre commercial géant. Tout est fait pour capter votre attention, et ça, c'est pas du tout conforme à votre intention profonde.
Vous dites, les vidéastes qui poursuivent une cause plus noble que la simple viralité se trouvent doublement sanctionnés, car en fait, l'algorithme de YouTube, par exemple, promeut surtout les vidéos les plus cliquées. Les plus cliquées sont souvent de vulgaires publicités mensongères, dites-vous. Est-ce que l'algocratie, et le problème de l'algocratie et des algorithmes, c'est pas que ça fait un nivellement par le bas ?
Je pense complètement, ouais. En fait, comme ce qui est faux étonne et que ce qui étonne retient davantage l'attention, les algorithmes ont tendance à promouvoir encore davantage ce qui étonne. Par exemple, sur Twitter, une équipe de chercheurs du MIT a montré qu'une information fausse, erronée, sur un sujet précis, se propageait en moyenne 6 fois plus vite qu'une information vraie, exactement sur le même sujet. Donc, à partir de ce genre d'informations, on se doute que le paysage de l'information devient complètement discordant avec la réalité, quoi. Et ça produit également des bulles informationnelles, parce que ça conduit à nous disons, à flatter notre biais de confirmation. On aime bien évidemment consulter des contenus conformes à nos croyances initiales, mais ça fait même mieux que ça, ça nous attire vers des sujets sur lesquels on a une chance de développer une opinion radicale. Parce que cette radicalité est un gage du temps passé sur les réseaux sociaux à se répéter de contenus radicaux et tout ça. Typiquement, la théorie QAnon, qui a sévi aux États-Unis depuis 2009 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, faut quand même se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. En 2021, il y avait un électeur républicain sur trois qui adhérait à la thèse centrale du mouvement QAnon, qui voulait que les républicains étaient en train de livrer une guerre secrète aux démocrates, qui auraient été à la tête d'un réseau pédophile assoiffé de sang de bébés pour jouir de la jouvence éternelle. Quoi.
C'est complètement délirant. Plus c'est gros, plus ça passe.
Et ça concerne énormément de gens.
Aurélie Jean, comme vous, alors j'ai bien compris, vous faites partie des personnes qui font des algorithmes,
absolument,
qui les créent.
Absolument.
Vous êtes le diable. Comment faire ?
Je suis un ange.
Alors comment faire pour réguler tout ça ?
Alors en fait, c'est intéressant parce que quand on parle d'algorithme, on mélange pas mal de choses. Et par exemple, Arthur a très bien dit à parler d'attention. Et en fait, le véritable problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on est dans une économie de l'attention. On veut attirer et surtout retenir les gens le plus longtemps possible.
À n'importe quel prix.
Et le moyen de faire ça, c'est de les engager. Et on les engage comment ? De deux manières, comme l'a dit Arthur. La première, c'est qu'on fait en sorte de leur donner des choses qu'ils vont aimer et seulement aimer. Donc en fait, ils vont être dans une bulle d'observation et d'opinion de par la manière dont l'algorithme fonctionne. Si vous voulez, je pourrais rentrer dans les détails. Et le deuxième effet, c'est justement de mettre en avant des tweets pour Twitter, mais des contenus polémiques et transgressifs, complotistes, etc., qui vont davantage engager les gens. Donc, est-ce que les algorithmes font-ils la loi ? Ce n'est pas une fatalité, c'est ça ? Non,
en
fait.
On peut s'en sortir.
Mais pour ça, il faut, et d'ailleurs on est en plein dans le sujet cette semaine, parce qu'on a vu que Elon Musk avait donc signé son rachat de Twitter et commencé à réfléchir à la modification du modèle économique de Twitter, parce que la réalité c'est que on ne pourra pas changer les algorithmes de recommandation, enfin ces propriétaires-là n'auront pas du tout l'envie de changer leurs algorithmes de recommandation s'ils ne changent pas leur modèle économique. Donc en fait il faut changer le modèle économique pour pouvoir... Non, c'est possible, honnêtement c'est possible. Et du coup avoir des algorithmes de recommandation qui soient bien faits, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'algorithme qui est coupable, mais les gens qui décident de le développer, de l'utiliser ainsi.
Ouais. Manon Mariani ?
Oui, on parle des réseaux sociaux, mais les algorithmes nous jugent aussi. Je prends les applications de rencontres, par exemple.
Au hasard,
évidemment.
Expérience personnelle.
Voilà, il y avait une journaliste qui avait sorti un livre qui s'appelait L'amour sous algorithme.
Julie Duportail.
Exactement, qui disait qu'on avait tous des notes de désirabilité sur. Comment ça se passe ? On est noté vis-à-vis de quoi, en fait, sur ces applications ?
Et alors, quelle est la note de Manon, spécifiquement ?
Alors, exactement. On va se renseigner sur votre note, Manon. Je suis sûre qu'elle est très élevée.
Non.
Alors disons que le Hello Score dont parle Judith dans son livre, que je recommande, c'est un super livre, une vraie investigation journalistique de sa propre expérience.
Ouais, c'est génial.
Le Hello Score, en fait, c'est un score qui est sur Tinder spécifiquement, qui vient d'une théorie des mathématiques en fait de jeu, à savoir, alors je vous le fais vraiment rapidement, mais c'est une théorie mathématique qui vient de la théorie des jeux et qui consiste à mettre en avant la contribution de chaque joueur dans une partie au succès de la partie finale, donc au résultat final. Et en fait, l'idée avec l'analogie avec cette fameuse attractivité sur ces réseaux de rencontres. L'idée, c'est d'aller mesurer un score, le Hello Score, vis-à-vis du nombre de fois que les gens swipe à droite pour le langage de jeune,
liker,
aimer, voilà. Et aussi le nombre de fois vous venez sur la plateforme. Donc plus vous allez sur la plateforme, ça vous engage. Et donc le Hello Score, de ce que je sais, mais je ne peux pas vous confirmer, je crois que Tinder dit ne plus l'utiliser, mais c'est un score qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il a créé aussi des discriminations. Voilà.
Bah, on enquêtera, madame Promis. Regardez bien. Face à vous, c'est Quentin, lui. C'est peut-être l'élu, le néo d'Alençon, celui qui, par l'éclectisme de ses centres d'intérêt et de ses mots-clés favoris sur Google, MotoGP, Eddie Mitchell, Gilles pour femme, Willy Rovelli, va faire disjoncter l'algorithme qui, devant un tel bordel de goût, ne saura plus quoi lui proposer. En attendant, Néo, dites-nous, dans la rue, les gens ont-ils conscience de vivre dans une algocratie ou bien ils pensent toujours qu'on est en démocratie ?
Ils sont loin de se laisser berner, les gens. Et d'ailleurs, en écoutant nos invités depuis tout à l'heure, je me dis que je ne serais pas étonné de voir apparaître dans quelques années un robot qui aura analysé différentes réponses d'internautes et qui sera capable d'improviser tout simplement un micro-trottoir au micro de France Inter.
Vous êtes remplacé.
Tout ceci court à ma perte, Mathieu, je le sens. Mais pour l'instant, je suis encore là. On commence avec ce couple assis sur un banc dont Brassens aurait pu s'inspirer pour une chanson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en couple ?
Oui.
Oui.
Ça se voit.
Merde.
Quel est votre prénom ?
Aitor.
Emeline.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis illustrateur et game designer.
Et moi, je suis infographiste 3D.
Je tends la pancarte Zoom Zoom Zen.
Algocratie.
Je ne connais pas le terme, donc...
Algo.
algorithmes. Kratos, ça doit être le pouvoir par les algorithmes, donc une forme de souveraineté, de règne par les algorithmes, j'imagine.
Pas mal, pas mal. Emeline nous parle de ce qu'elle a remarqué dans son quotidien, forcément entouré d'algorithmes.
Imaginons, je cherche un tapis, et bah tout de suite, tous les sites où je vais aller, toutes les applis où je vais aller, j'ai des pubs pour des tapis.
Le pire, c'est que l'autre jour, elle cherchait une bibliothèque, maintenant je suis spammé de bibliothèques partout sur mon compte. Ouais. Mais en fait, c'est ça le pire. Les algorithmes savent que tu passes beaucoup de temps avec cette personne et que du coup, ils vont essayer aussi de t'influencer toi, tu vois. Et tu vas te choper en fait tous les entre guillemets débris de cookies des autres, tu vois, et c'est terrible.
Et est-ce que ça lui fait peur, Aitor ?
Tu vois, je vais pas être là genre Black Mirror, attention, waouh, futur, danger, mais je sens qu'on se dirige vers un truc entre guillemets cyberpunk à la Blade Runner où on est bardé de un jour on va avoir des hologrammes dans la rue qui vont popper et qui vont dire hey, machin, tu cherches ça, tu vois, tiens, genre waouh, mais j'ai rien fait, tu vois, j'étais chez moi en slip en train de taper un truc sur internet et voilà ce qu'on me propose.
Je change de rue et en arrêtant ces dames, je me rends compte que pour l'instant c'est moi l'hologramme du sur le trottoir qui interpelle les gens puisque c'est moi qui arrête les gens au hasard. Voici Véronique, elle a 56 ans, un coupe vent et une coupe de cheveux au carré, les lunettes rectangulaires, le sac en bandoulière pour la balade du matin.
Algocratie. Oui, ça a tendance à vous orienter vers quelque chose que vous pensez, avec quoi vous êtes d'accord déjà. Ça vous enlève un peu d'esprit critique, je dirais. Ça nous rétrécit notre champ de réflexion. Non, je ne suis pas très réceptive à ça. Je pense que ça ne m'empêche pas de réfléchir. L'algorithme n'est pas tout puissant non plus.
Je salue Véronique et en passant devant un pressing, je crois ce monsieur qui respire l'expérience, coquet, chic. Je m'approche de lui, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Rodolphe.
Rodolphe, vous avez quel âge ?
Oh là, ça ne se dit plus, 80.
Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ?
J'ai fait toute la carrière dans la publicité, marketing, création, relations publiques, communication.
Alors que pense Rodolphe, 80 ans, des algorithmes ?
On est gouverné par les algorithmes, on le sera de plus en plus. Il y a des métiers qui vont disparaître prochainement grâce aux algorithmes ou à cause.
Par exemple ?
Par exemple la finance, le trading va disparaître, c'est programmé. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, toutes ces professions de trader, d'analyste seront remplacées par des robots, par des algorithmes.
Mais alors, en parlant de métiers qui pourraient disparaître, je le ramène sur sa carrière à lui, ce publicitaire. Comment on faisait sans les algorithmes ? Eh bien, il y avait des études.
Ça coûtait très cher, mais en même temps, c'était une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir l'air d'être brillant devant ses clients en faisant des démonstrations au tableau noir avec les résultats d'études. Alors on était important. Maintenant, on n'est plus là. On n'est plus sur un bouton. Puis
bon. Voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, les algorithmes vous intéressent, vous énervent, vous font réagir. Alors dans la rue, dans les transports en commun, en marchant les yeux rivés sur nos smartphones, j'ai surtout l'impression qu'on ne cesse de les rendre de plus en plus forts.
Vivons-nous dans une algocratie ? C'est la question qu'on pose cet après-midi dans Zoom Zoom Zen. De ce micro-trottoir, Quentin, j'ai envie de retenir Véronique qui nous dit « ça nous enlève l'esprit critique, les algorithmes, mais que c'est à nous de lutter pour élargir notre champ de réflexion. L'algorithme n'est pas tout puissant », dit-elle. Entre nous, mon cher Arthur, c'est à nous de conserver une sorte de gymnastique anti-algorithme. Comment on fait pour déjouer les pièges de l'algorithme ? Est-ce que c'est possible ?
Oh, ça me semble assez compliqué. Imaginez un monde fictif dans lequel vous avez toute l'humanité qui va quotidiennement s'informer dans une même bibliothèque et que dans ce monde, il y ait un seul bibliothécaire qui soit chargé de commander les livres, de les mettre au rayon et de les conseiller à toute l'humanité.
Ça s'appelle Amazon.
Ça s'appelle Amazon, ça s'appelle YouTube, ça s'appelle le monde dans lequel on vit aujourd'hui. En fait, on se précipite vers ces réseaux sociaux et on ne choisit pas, pour l'immense majorité, ce qu'on consulte. Donc ces algorithmes sont, qu'on le veuille ou non, en train de construire et de mettre à jour notre représentation du monde. Et c'est assez inquiétant parce que ça crée un détournement de l'attention massif. On pense au film Don't Look Up récent. On peut penser aussi à Mark Zuckerberg qui avait dit devant ses salariés, c'est peut-être plus important aujourd'hui pour vous qu'un écureuil soit en train de mourir sur le pas de votre porte que des personnes soient en train de mourir en Afrique. Donc ce qu'il exprime de façon très cynique, en fait, il entretient une confusion entre ce qui retient notre attention immédiate et ce qui devrait attirer notre attention. Par exemple, le changement climatique, l'épuisement des ressources fossiles ou ce genre de phénomènes qui sont complexes, qui sont pas forcément agréables à écouter, qui sont peu concurrentiels dans la guerre de l'attention, dans cette économie de l'attention. Et les algorithmes nous détournent notre attention de ces sujets prioritaires, par exemple.
Quentin.
Et ça, ça développe des fantasmes, on l'a entendu dans la rue, Aurélie Jean. Il y a ce couple qui se rend compte qu'ils ont les mêmes publicités ciblées sur Instagram. Et alors, Hector qui pense que dans le futur, ce sera des hologrammes pop-up qui apparaîtront dans la rue pour nous vendre des choses. L'enfer. Ça vous fait rire? Non, est-ce que c'est possible selon vous, ça?
Bah, technologiquement, enfin, beaucoup de gens travaillent sur les hologrammes. Ça va arriver de manière plus perfectionnée. Après, à quoi ils vont servir? En fait, la vraie question n'est pas sur la science elle-même, parce que l'algorithmique est une science qui est utilisée à des fins très nobles dans plein de domaines. C'est comment les gens vont l'utiliser. Et c'est ça qui est très important. Et depuis le début de l'émission, on parle des réseaux sociaux, ou les plateformes à la demande, enfin, toutes les choses comme ça. Et en fait, c'est là-dessus dont il faut discuter, à savoir comment ces algorithmes sont développés, comment ils sont utilisés, quelles régulations mettre en place pour pouvoir encadrer les développements, les usages et s'assurer que, justement, on ne soit pas dans cette économie de l'attention. Et encore une fois, ça passera forcément par une modification d'une part du modèle économique, mais aussi d'avoir une posture, que chacun ait une posture de parfois faire mieux en gagnant moins d'argent, parce qu'on le fait tous sans même se rendre compte, en fait.
Comment on peut réguler un secteur aussi pointu, technique que les algorithmes? Le législateur, il aura toujours un temps de retard par rapport aux gens qui codent, je sais pas si on dit coder pour des algorithmes.
Ou qui conçoivent en général. Oui. Alors c'est une très bonne question. La loi par nature est conservatrice, elle est souvent en décalage avec les pratiques sociales, hein, le droit à l'avortement ou plein d'autres choses. Cela étant dit, en fait, la loi, elle peut aussi avoir une vision, elle peut être aussi visionnaire, en fait, anticiper ce qui va arriver dans le futur. Deux choses. On a réussi à le faire pour les données à caractère personnel, même si c'était plus facile pour deux raisons. La première étant que les données à caractère personnel sont plus faciles à comprendre. Et la deuxième, c'est qu'on avait un historique dans la loi, puisqu'on avait la loi Informatique et Liberté 78, donc on avait déjà compris les choses. Pour les algorithmes, en fait, comme moi je l'ai dit dans le livre, on ne peut pas strictement réguler un algorithme, parce qu'on ne peut pas l'auditer, l'évaluer, définir sa logique de fonctionnement entièrement. Cela étant dit, il faut construire une régulation qui va réguler ce que moi j'appelle la gouvernance, à savoir les pratiques de test, de développement, d'extraction de l'explicabilité, c'est-à-dire l'extraction de la logique de cet algorithme.
Mais qui fait
ça ? Nous, les concepteurs. D'accord. Moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai des règles de gouvernance où, en fait, on fait des tests statistiques. Donc, tous ces tests font partie de ce qu'on appelle l'explicabilité algorithmique. C'est toute une science qui est née des pas mal d'années déjà, qui en fait c'est des stats, hein, c'est l'algèbre linéaire. Mais l'idée c'est en fait d'aller faire des tests poussés sur les données utilisées pour construire cet algorithme, des méthodes et des pratiques bien particulières pour aller concevoir ces algorithmes, mais aussi de les tester une fois qu'ils ont été construits, de les post-tester, on appelle ça du back-testing, etc., etc., et d'extraire un maximum cette logique. Et en fait aujourd'hui la loi n'impose pas du tout de faire ça. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a toute la partie aussi lié aux effets pervers. Par exemple, Arthur parlait très bien de l'effet bulle. L'effet bulle en algorithmique n'est pas une fatalité. L'effet bulle apparaît lorsque vous allez classer, par exemple, des utilisateurs de YouTube ou n'importe quelle autre plateforme. Vous allez les classer en fonction de leur similarité statistique dans leur comportement dynamique, ce qu'ils aiment, etc. Mais c'est des algorithmes que moi j'utilise tous les jours à de très bonnes fins, enfin, je vous assure. Sauf que si vous les testez mal et si vous les travaillez mal, bien évidemment de manière aussi consciente, parce qu'ils veulent satisfaire un modèle économique qui est le modèle de l'attention, l'économie de l'attention, bien évidemment vous allez tomber dans des bulles. Et ces bulles les arrangent, puisqu'en restant dans votre bulle, vous allez davantage consommer du contenu. Donc en fait, il faut aussi aborder des grands sujets comme l'effet bulle, de la même manière qu'on a abordé le profilage dans le texte européen sur les données à caractère personnel, où justement on encadre très bien pour éviter qu'on ait du profilage discriminant et autres.
On va revenir sur la manière de réguler, tant que ce soit possible, mais vous semblez dire que oui, les algorithmes. On continue à analyser le concept d'algocratie, et quand les algorithmes prennent le contrôle, dans Zoom Zoom Zen avec nos invités Aurélie Jean et Arthur Grimont-Pont, juste après un groupe qui ne m'a pas du tout été suggéré par l'algorithme de Spotify, parce que j'adore Daft Punk, pas du tout. Coming Back, Parcells, sur France Inter.
Yeah.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Aujourd'hui, les algorithmes sont partout, tout le temps. Il n'existe qu'une dernière terre vierge, où ce n'est pas un ordinateur impartial qui décide, mais un humain complètement partial, puisque c'est vrai, j'avoue, j'aime bien quand c'est Manon Mariani qui gagne.
Ah oui.
Voici le
moi
Zoom
aussi.
Zoom Test.
C'est bien de le dire.
Avec aujourd'hui, vous voyez, je suis franc. Avec aujourd'hui, une des formules que vous affectionnez le plus, un Zoom Zoom Test de vérification pour voir combien de pages des livres de nos invités vous avez lus. Alors bon, hein, deux livres, ça fait beaucoup, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, mais bon, c'est pas jamais. Manon Quentin, top. Quentin, c'est en 2015 que vous avez mis fin à votre fructueuse collaboration avec les Cafés Richard. Par chance pour vous, le logiciel PredPol pour Predictive Police n'existait pas encore dans l'ordre, mais seulement à Los Angeles, où la police l'utilisait donc pour prévoir à l'avance, un peu comme dans Minority Report, quel crime ou larcin serait commis et où. Ils auraient donc pu vous coffrer avant que vous ne chouriez la belle machine à café que vous aviez pris pour chez vous, on le rappelle.
Arrêtez.
D'après vous, de quel modèle de prédiction était inspiré PredPol ? Un modèle de prédiction des accidents de la route ? Un modèle de prédiction des tremblements de terre ? Ou un modèle de prédiction des reflux gastriques chez Cyril Lacarrière.
B. Oh, je suis
A et B, qui a dit A et
c'est
B.
C'est moi qui ai dit A et B.
Et vous avez dit quoi?
Juste B.
Juste B, c'est une bonne réponse.
Allez.
De Manon Mariani. Évitez de donner toutes les... ABCD, c'est bon, vous avez forcément gagné.
C'est la technique de Quentin, ça.
C'est une technique à la con, on peut le dire, Quentin. Bon, réponse B. PredPol était inspiré d'un modèle de prédiction sismique. Je dis « était » car je ne suis pas sûr que la police de LA s'en serve encore beaucoup, sachant qu'ils avaient remarqué que l'algorithme avait une fâcheuse tendance à prédire des crimes impliquant des personnes de couleur ou des hispaniques. Alors, Arthur Oli, je vous pose la question, est-ce que vous avez des nouvelles de PredPol?
Non, ça a été arrêté en avril 2020.
Ah oui, d'accord.
Le 21 avril 2020, d'ailleurs. Ouais, wow. Bonne mémoire des chiffres. Ah oui, je suis désolée.
Elle ne fait pas des algorithmes pour rien, bien voilà. Sûr. Manon, Quentin, attention, top. C'est décidément une chance pour Quentin qu'il ait commis ses odieux larcins, vol de matériel, je le rappelle, sur le sol français.
Arrêtez.
Et non aux États-Unis. Car si c'était dans l'État de New York qu'il avait été condamné pour vol de percolateur, il aurait risqué très gros à cause de compass. Comme un compas. Ma question est simple, si tant est évidemment qu'on ait quelques notions d'anglais. Une question qui s'annonce plus compliquée pour Manon, qui, je le rappelle, a traduit l'autre jour à l'antenne « Live in luxury » par « Vivre dans la luxure ». Traduction qui concernait en plus une enfant,
je Greta
Thunberg.
Je m'en suis excusée.
Voilà, oui. Je vais donc vous révéler les mots derrière l'acronyme COMPASS. À vous de me dire de quoi on parle. Il n'y aura pas de choix, il va falloir réfléchir. Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. D'après vous, de quoi on parle? C'est quoi le
COMPASS?
Aurélie,
compas, ça... donnez-nous un peu d'aide là.
Ah bah, faut que vous réfléchissiez un petit peu quand même.
Arthur, vous pouvez les aider.
C'est la correction. Redites-moi. Juste
ouais, non, mais en fait, oui, c'est ça. Il y a trop de mots.
Redites-le.
Correctional.
Je le note avec l'accent.
Correctional
avec l'accent,
Offender Management Profiling. For alternative sanctions.
Ok, donc c'est quand
c'est
les
non, c'est quand le logiciel qui va choisir la sanction.
Non, c'est quand les boss abusent de leur pouvoir et qu'ils emploient des gens.
Pas du tout. La bonne réponse est donnée à Quentin, qui a eu la réponse, disons, la moins éloignée de la réalité. On en est là dans cette émission, vous savez, parce que s'il fallait attendre.
Il y a une triche.
S'il fallait attendre la bonne réponse. Non, il était encore loin du compte.
Ah.
Alors, le compas, c'est quand l'algorithme s'immisce dans notre système judiciaire. Ce logiciel évalue les risques de récidive chez un individu, afin, par exemple, de permettre au juge de décider de la libération sous caution ou pas d'un accusé en s'assurant. Algorithmiquement parlant, de sa comparution au tribunal.
Proche,
Livre d'Aurélie Jean, page 163, visiblement. Wow. Vous n'avez pas lu si loin. Il serait bon de finir ce quiz sur une note d'optimisme.
Ouais.
Voilà pourquoi, Manon Quentin, je vous pose la question dont la réponse est située page 207 du livre Algocratie d'Arthur Grimont-Pont. Si seulement vous l'aviez lu. C'est quoi, d'après vous, le projet Tournesol? Un algorithme qui va permettre d'optimiser la production d'huile de tournesol en fonction de l'ensoleillement et éviter ainsi la pénurie qui menace avec la guerre d'Ukraine. Le premier algorithme inspiré du professeur Tournesol et qui va permettre à la NASA de retourner sur la Lune. Ou un projet visant à faire l'inverse des algorithmes des GAFA, à savoir promouvoir à grande échelle non pas des vidéos d'influenceurs posant devant leur Bentley pour vous inciter à acheter une Bentley, mais des vidéos d'utilité publique pour vous inciter à être moins con.
Lassé.
La dernière n'était pas une bonne réponse, c'était la réponse C. Oui, exactement, une victoire de Quentin. Mais pour une fois, ça me fait plaisir. Tiens, elle fait la gueule.
Je ne parle plus.
Non, mais de temps en temps, en plus, quand vous perdez comme ça.
C'est vrai, c'est
bravo,
vrai.
Quentin.
Merci.
Bien joué.
Merci à tous.
Sans l'aide de nos invités. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Cet après-midi, on zoome sur les algorithmes. Ils sont partout, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas seuls. Aurélie Jean, vous le rappelez, derrière chaque algorithme en fonctionnement, il y a des hommes et des femmes qui ont pensé, développé, testé, vendu et utilisé cet algorithme. Des décisions bien humaines ont été prises tout au long du processus. Ça, il ne faut pas perdre de vue ça. Est-ce qu'on se défausse pas un petit peu sur l'algorithme quand on estime que notre société va mal ?
Complètement d'accord. Et d'ailleurs, on entend, on lit des phrases, même de dirigeants politiques de tout pays hein, et de tout bord, disant... Les algorithmes sont sexistes, les algorithmes sont coupables, les algorithmes sont racistes, etc. etc. Mais en fait, l'algorithme n'étant ni une personne morale ou physique, il ne peut pas avoir de responsabilité. Il faut davantage aller regarder comment cet algorithme a été construit, qui le conçoit, qui le possède, qui le vend. Et même parfois, lorsqu'un algorithme a été bien conçu, s'il est mal utilisé, il va être utilisé à tort et à travers et surtout il va créer des comportements discriminants. Donc il faut vraiment bien comprendre comment les algorithmes sont faits pour pouvoir en définir la responsabilité.
Arthur Grimont-Pont, dans votre livre, vous reprenez cette phrase de Brad Smith, le président de Microsoft. Les pays démocratiques ne devraient pas céder leur avenir à des dirigeants qui n'ont pas été élus par le peuple. C'est pourtant un peu ce qui se passe. Est-ce que vous sentez une réaction des classes politiques mondiales ? Est-ce qu'il se pose la question ? Est-ce qu'en haut lieu, dans les sphères politiques, on est en train de prendre conscience que peut-être quelques entreprises privées ont beaucoup plus de pouvoir que les États les plus puissants même ?
Oui, je pense que c'est le cas. Ouais. En fait, Aurélie le disait, il faut se poser la question de qui possède les algorithmes, et quelles fins ils servent. Et très principalement, ce sont des intérêts privés que servent aujourd'hui les algorithmes, notamment les géants du numérique qui sont en passe de devenir les premières capitalisations boursières de la planète. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que chez le régulateur, par exemple, l'exigence de transparence algorithmique s'est un peu imposée comme la solution phare à tous les problèmes. Or, si vous cherchez à élucider un crime, vous ne faites pas passer un scanner cérébral au suspect du crime. Vous essayez de comprendre et d'élucider les motifs potentiels du crime. C'est un peu la même chose si une voiture écrase quelqu'un sur la route, vous pouvez regarder le moteur, mais tout ce qui importe, en fait, c'est de comprendre plutôt l'objectif des algorithmes. Et cet objectif, il converge en général avec celui qui l'a créé, et il diverge assez fortement, en général, avec l'objectif de ceux qui l'utilisent, à savoir sur les réseaux sociaux, s'informer ou se divertir, tout simplement.
J'aimerais qu'on évoque une situation à laquelle on est tous confrontés sur Internet tout le temps, plusieurs fois par jour. C'est on signe, on accepte des conditions quand on veut accéder à un service, une page particulière. Et ça, dans son livre, Shoshana Zuboff, son livre sur l'ère du capitalisme de surveillance, qui est à mon avis un livre que vous avez lu assez important sur ce monde dans lequel on vit, c'est des pseudo-contrats en fait. Parce que personne, elle explique qu'il faudrait je ne sais pas combien de jours pour lire chaque contrat. Et qu'en fait, les marques, les GAFA misent là-dessus sur le fait que tout le monde va cliquer parce qu'on veut accéder au service. Comment on résout ce problème des pseudo-contrats qui pullulent, qui sont notre quotidien en fait.
Alors moi, j'aurais une petite nuance quand même sur cette notion de cocher la case. Certes, on ne lit pas les conditions, personne ne les lit, à part l'équipe légale qui les a écrites, j'espère. Mais la réalité, c'est que s'il arrive un souci, un problème, et que vous portez plainte contre la société en question, ce qui se passe, c'est qu'on va revenir sur ces CGU, sur ces conditions générales d'utilisation que vous avez signées, cochées, avec lesquelles vous étiez d'accord. Et si ces conditions ne sont pas en conformité avec la loi européenne, dans notre cas, même un service américain, mais qui est exploité sur le territoire européen avec des données à caractère personnel européen, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il risque très très gros, jusqu'à plusieurs pourcentages du chiffre d'affaires. Donc il faut le voir.
On est protégé en tant que consommateur.
En fait, j'en parle dans mon livre. Par exemple, mes contrats d'édition qui font plus de 20 pages, je ne les relis pas. C'est mon avocat qui le fait. Et en fait, mon avocat, je lui fais confiance. Et donc, ce que je dis, c'est que moi, je fais confiance aux législateurs européens pour avoir fait des régulations. Alors, tout n'est pas parfait dans le RGPD. Sur les 99 articles, j'ai vu deux articles où il y avait une sorte de vide technologique. Mais sinon, c'est quand même un travail phénoménal qu'ils ont réussi à faire.
C'est quand même bien fait.
Mais bien évidemment, c'est une révolution positive. Il faut quand même le reconnaître, qui a d'ailleurs influencé le texte américain. Il faut quand même le savoir, le texte californien qui est reconnu dans plusieurs États des États-Unis. Et moi, j'habite la Californie. Donc, pour le coup, j'ai RGPD d'un côté, le texte californien.
Donc vous pouvez nous lire, on n'est pas à la ramasse en Europe.
Ah non, sur le RGPD, sur la data à caractère personnel, on a été quand même les précurseurs. Ouais.
Mais là, il y aurait un algorithme justement qui prendrait toutes les photos en disant il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui prend feu et préviendrait les secours.
Oui, c'est forcément possible. Ah oui, on peut le faire. L'algorithme peut tourner sur plusieurs choses, des règles explicites, à savoir regarder la localisation, si la localisation est la même, puis d'aller voir en fait le contenu des images et par analogie, on peut très vite voir si les images sont identiques, même à des angles de vue différents. Et puis aussi, si les gens mettent des commentaires sur les photos, les commentaires, en fait, par analyse sémantique, on peut avoir des similarités dans les mots utilisés, etc. Excusez-moi, je n'avais pas compris votre question. Je vous prie de m'excuser.
Elle était mal formulée.
Bah oui, voilà.
Mais non, bisous, Quentin. Vous êtes bien sur France Inter. Dans quelques instants, vous serez encore mieux, puisque Pierre Thévenoud viendra nous expliquer sa façon de voir l'algocratie. Quentin, un petit avant-goût de Pierre Thévenoud ?
Ah bah, c'est parti pour la comique.
Parfait, on s'y croirait, il est déjà là presque avec nous. Mais avant ça, Manon, je me tourne vers vous, car il n'y a pas que les algorithmes dans la ville, il y a aussi les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous nous parlez podcast et influence.
Ça y est, je n'arrive pas à croire que j'ai le micro de mon podcast entre les mains.
Hello à tous, cette semaine, dans Toile, je reçois l'humoriste et comédien Alex Ramirez.
Hello, ici Anastasia au micro, je viens vous partager encore une histoire de vie.
Vous venez d'entendre les voix de trois stars de YouTube, Léna Situation, 2,5 millions d'abonnés, Enjoy Phoenix, 3,5 millions d'abonnés, Anna RVR, 500 000 abonnés, trois jeunes femmes qui se sont fait connaître sur la plateforme de vidéo, mais qui dernièrement ont trouvé un nouveau terrain de jeu, le podcast. Chacune a son propre univers et sa propre société productrice de podcast. Celui d'Enjoy Phoenix s'appelle Toile. Elle y parle de ce qu'elle connaît, l'influence des réseaux sociaux dans un entretien avec un invité. Anna RVR, elle a lancé son podcast Contre Soirée, une sorte de journal intime où elle dévoile sa vie, ses peurs et ses joies. Et enfin, Léna Situation a lancé Canapé 6 places, alors un peu moins conceptualisé que les autres. En gros, il tourne autour d'elle et par moments, elle recevra des invités comme lors d'un épisode avec Pierre Ninet. Alors, Léna, elle a quand même un gros avantages sur ses collègues, elle a signé un contrat d'exclusivité avec l'un des géants du marché du podcast d'aujourd'hui, Spotify. En 2020, Spotify, ils ont investi plus $1 milliard dans les podcasts. Ils ont pu attirer de grosses personnalités, de Barack Obama à Meghan Markle en passant par Tony Parker. La tendance podcast vient des États-Unis. Là-bas, ça fait longtemps que les podcasts cartonnent. En 2020, ils étaient quand même 100 millions d'auditeurs. Et vous l'avez donc compris, c'est devenu un tel business que même les youtubeurs ou influenceurs les plus connus s'y mettent. Et notamment les femmes qui ont trouvé une sorte de safe place dans le podcast, un moyen de s'exprimer sans que ce soit leur physique qui soit mis en avant, mais leurs propos. Le podcast a un côté plus intime, plus confidentiel et qui attire aussi un autre public.
Et est-ce que ça marche maintenant ?
Alors pour l'instant, en France, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais le podcast de Léna Situation, par exemple, ne quitte pas la première position des podcasts les plus écoutés sur Spotify depuis 2 semaines, donc ça donne une certaine tendance, une certaine idée. Alors peut-être qu'elle va prendre le chemin de l'influenceuse podcasteuse star américaine Alexandra Cooper.
What is up, Daddy Gang? It is your founding father, Alex Cooper, with Call Her Daddy.
Son podcast s'appelle Call Her Daddy. Alexandra Cooper y parle de sexe, de ses relations avec les hommes, donne même des conseils. Aujourd'hui, elle est devenue une personnalité publique très très influente. La preuve avec ses 2,2 millions d'abonnés sur Instagram. 4 ans que son podcast existe et c'est un tel carton que Spotify l'a racheté en exclusivité. Ils lui ont signé l'année dernière un deal, tenez-vous bien, de $60 millions pour 3 ans. C'est une somme énorme. Et Call Her Daddy...
C'est plus que Cyril Lacarrière sur Inter.
Ah oui, ouais,
c'est 3 ans.
Sur 3 ans.
C'est sur 5.
Et Call Her Daddy est même devenu le podcast le plus écouté par les femmes sur Spotify. Si bien qu'Alexandra Cooper a décidé d'en faire un produit plus haut de gamme en invitant par exemple des pop stars à se confier sur leur santé mentale et sur leur carrière comme Hailey Bieber ou Demi Lovato. Et dernièrement, elle a même fait un épisode documentaire où elle se rend dans un centre d'avortement pour discuter avec des militants pro-life qui manifestaient devant. Alors évidemment, je ne vais pas enterrer YouTube en disant que le podcast va remplacer les vidéos, mais c'est quand même important de noter une bascule chez les femmes influenceuses. D'ailleurs, la mannequin Emily Ratajkowski, 29 millions de followers sur Instagram, idole de Cyril Lacarrière, vient elle aussi de lancer son podcast I Low With M Rata, une émission un peu fourre-tout où se mélange journal intime, entretien et interview d'auditeurs. Alors, les producteurs de podcasts misent donc beaucoup sur ces créatrices de contenu dont les noms sont devenus de vrais produits d'appel. Ils savent que bah, des noms connus attirent des noms connus, dont plus d'invités et plus de relais sur les réseaux aux millions de followers. C'est une nouvelle forme d'influence qui pourra peut-être permettre aux femmes de libérer encore plus leurs paroles. Et ça, c'est essentiel.
C'est essentiel. Merci beaucoup Manon Mariani. Et pour vous féliciter, j'avais très envie qu'on écoute votre single autoproduit Nuit coquine à Londres ou un truc dans le genre.
Ça change tout le temps.
Ouais, c'est un truc comme ça. Okay. Hélas, on m'a appris qu'elle ne figurait pas sur la playlist France Inter.
Non.
Contrairement à Clara Luciani, la place sur Inter.
Au bout de la rue, je te vois et je devine déjà que tu n'as pas. Que vas-tu penser de moi? Je me suis un peu abîmée. J'ai cherché dans tous les pays ce qui se cachait ici, que je n'avais pas vu. Il m'a fallu revenir là où je connais chaque. Come on. Je devine déjà que tu n'as pas changé. Que vas-tu penser de moi? Je me suis un peu abîmée.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Certains cherchent à l'imiter. Il est inimitable et surtout son regard sur l'algocratie risque de changer la donne pour nos invités qui vont peut-être devoir réécrire leur bouquin. Bonjour Pierre Thévenoud.
Bonjour, bon ben c'est parti pour le comique. Alors ça va sûrement vous surprendre, mais je crois que là vraiment j'ai rien compris au sujet du tout. Non, c'est trop compliqué. J'ai l'impression d'être de retour au collège où le prof de maths il me faisait aller au tableau pour m'humilier. Alors Pierre, si x plus 15 égale 20, quelle est la valeur de x? Je sais pas moi, monsieur Rongier. Hein, x plus 15 égale 20, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai 14 ans, de l'acné plein la tronche, un appareil dentaire. La seule fille à qui je parle, c'est la dame de la cantine. Tu crois pas que j'ai d'autres priorités dans la vie que de savoir la valeur de x? Et tous ceux-là qui écoutent à la radio et qui se disent « Mais c'est facile, enfin, x égale 5, si je vous croise, je vous tase. » Non, ça devient trop compliqué cette émission. Putain, on a un dossier de presse à lire. Non mais la France doit savoir. La France doit savoir nos conditions de travail, Mathieu. Moi, je suis comique. Donc mon métier, normalement, c'est escroc qui bosse 10 minutes par jour. Et là, pour préparer la chronique, je dois me lire un pavé de 40 pages. Pas d'image, pas un coloriage, pas un rébus, même pas un petit sudoku pour déconner, rien. Que du putain de texte qui parle de trucs que je comprends pas. Mais je vais quand même la faire, ta chronique. Je vais la faire, mais il va falloir que tout le monde y mette du sien. Et fasse semblant que c'est pas hors sujet. Ok, okay. Vous êtes prêts? Alors, le thème, c'est les algorithmes, machin, les réseaux sociaux, tout ça. Et ben moi, complètement accro aux réseaux sociaux. Tous les soirs, je suis dans le lit, je me pose, j'ai dit tu poses le téléphone, mais au lieu d'affronter le plafond et mes pensées comme un grand, vite on ouvre le portable et on fait défiler de la merde. Tac, tac, tac. L'algorithme, il me rend fou. J'ai liké une fois une vidéo d'un chat qui fait du piano, une seule fois. Et depuis Instagram, il me balance que ça. Chat DJ, chat avec les lunettes, chat qui fait du skate, chat Elton John récemment. J'en peux plus. Et maintenant, vu que je suis sur France Inter, je vais voir un peu ce que font les collègues. Donc je me prends toutes les vidéos des autres humoristes et de Benjamin Tranier. Heureusement qu'ils filment pas encore les micro-trottoirs, parce que là, je me flingue direct. Non, je sais pas, les réseaux sociaux, y a un... tout le monde est beau dessus. Ça fait se sentir moche, tu complexes. Alors moi, j'ai pas ce problème. Mais c'est grâce à mes parents qui m'ont transmis ces gènes merveilleux qui font que de 8 à 18 ans, j'étais absolument dégueulasse. Vraiment incroyable, tout en même temps. Acné, appareil, grandes oreilles. C'est vraiment chaque matin, j'arrive devant le miroir. Ok, une nouvelle aventure qui commence. Quoi. Moi aujourd'hui, je suis bien. Je suis la version Brad Pitt de moi-même. J'ai atteint mon objectif, l'indifférence. C'est-à-dire quand je rentre dans une pièce, je veux pas que les gens fassent ah ouh. Je veux juste qu'ils disent oh, on l'a pas vu. Voilà, que c'est papier peint quoi, vraiment. Mais je sais que j'ai atteint mon pic. Là, ça commence à redescendre. Je perds mes cheveux, je prends du bide, je sue de la tronche. Des fois, j'ai une veine sur le front, là. Putain, c'est bien d'avoir du sang, quoi. Mais de là, se la raconter, quoi. C'est vraiment, je vais devant l'hôpital. J'en ai plein, je donne pas. Gna, gna, gna. Donc je redeviens tout pourri là, mais ça va, j'ai pas peur. Ce qui fait peur aux gens, c'est l'inconnu. Moi, être moche, je connais, j'en viens. Ah, voilà. C'est ma zone de confort. Voilà. Je suis un peu sorti pendant quelques années, mais là, on rentre à la base. Voilà. On a fait un tour en ville, on rentre à Dégueulasse Town. Petit jeu de mots en anglais pourri, hein, pourquoi pas. Si j'ai un conseil à vous donner, aux gens qui écoutent et tout, si vous avez des enfants, rendez-les le plus vilain possible. Le chemin sera plus dur, mais ça les rendra plus forts. Tu leur mets la tenue GIGN, Bermuda, chemise manche courte, chaussures Geox, cartable à roulette, parfait. L'acné, maintenant, il y a des traitements. Roaccutane et tout, en 3 semaines, c'est plié. Tu fous tous les médocs à la poubelle, tu laisses traîner ça pendant 4-5 ans, l'enfant, il va se faire toutes les années collège avec acné à pareil, c'est Koh-Lanta. Faut esquiver les croche-pattes, tu sors de là, t'es Mike Horn avec une machette, t'es invincible. Voilà, bah, cette chronique prend fin tranquillement.
Magnifique. Merci beaucoup, Pierre Thévenoud. Et on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Un grand merci, évidemment, à nos invités. Arthur Grimont-Pont, je rappelle votre livre Algocratie. Et chez Actes Sud, Aurélie Jean, les algorithmes font-ils la loi? On a compris que oui, mais non. J'ai une petite dernière question, peut-être Arthur, sur, dans la préface de votre livre, elle est signée Jean-Marc Jancovici. Il parle de l'empreinte carbone du numérique. On n'en parle pas assez. Il écrit que l'usage des réseaux sociaux émet à peu près autant que la marine marchande mondiale. Est-ce qu'il a bien calculé? C'est quand même très bizarre, c'est fou.
Je pense que si on étend un peu le périmètre de calcul des émissions de carbone des réseaux sociaux, on se rendrait compte que ça en fait beaucoup plus. Parce que quand on regarde le rôle des réseaux sociaux dans les émissions de carbone, je pense qu'on se préoccupe vraiment de la partie émergée de l'iceberg. Le problème crucial pour moi, c'est la distorsion entre la réalité du changement climatique et notre perception du changement climatique que ces réseaux sociaux sont en train de causer le problème. C'est plutôt ça le problème.
Eh bien, c'est bien de finir sur une note optimiste. Ma foi, ça fait plaisir. Merci encore à tous les deux. Merci à tous. Quentin, lui, Manon Mariani, Cyril Lacarrière, le fossile à la disquette molle. À la réalisation, c'était Gaëtan Colli. À la technique, Lison Berger. Demain, c'est une version encore plus savoureuse de nous qui vous attend puisque le samedi, on est en best-of. Je vous donne donc rendez-vous lundi 16h en direct. Restez bien sur Inter. La folle équipe de C'est encore nous arrive. Mmh.